Bonsoir, entrons ensemble dans le temps du débat jusqu'à 19h ce soir sur France Culture dans le cadre d'une journée qui a été titrée par France Culture en raison d'un mouvement social. À l'ordre du jour ce soir, la radio publique est-elle menacée? En ouverture de cette émission un peu particulière et par souci de transparence, je tenais à signaler à nos auditrices et à nos auditeurs que j'ai signé, comme beaucoup d'autres personnes de cette maison, une tribune, c'était il y a quelques semaines, publiée dans Le Monde, et titrée « La radio publique en danger ». Me voici donc dans une situation étrange qui consiste à animer un débat sur ce même thème, passant de la forme affirmative à la forme interrogative, mais après tout, la radio de service public se doit de raconter le monde tel qu'il va. C'est ce que nous tentons de faire ici dans le temps du débat chaque soir, y compris quand ce monde est celui où nous évoluons nous-mêmes chaque jour, celui donc de la radio et de l'audiovisuel. Nous allons tenter de vous expliquer pourquoi nos antennes sont perturbées avec ce conflit qui dure depuis le 25 novembre en vous donnant le contexte dans lequel il s'est déclenché et en vous expliquant comment il s'inscrit dans les changements actuels de l'audiovisuel en France. Nous le ferons en compagnie de quatre analystes des médias parce qu'il n'est rien de plus difficile que de parler de soi-même comme un autre. Marina Alcaraz est avec nous. Vous suivez particulièrement pour les échos le projet de loi sur l'audiovisuel. Vous avez d'ailleurs interrogé le ministre Franck Riester à ce sujet. Laurent Mauduit est avec nous au téléphone. Vous avez publié plusieurs articles pour Mediapart en analysant ce qui se passe dans l'audiovisuel au regard de la politique telle qu'elle se tient en France. Jamal Hani, vous êtes avec nous. Vous suivez l'audiovisuel pour la très informée lettre confidentielle qui est la lettre A. Et Caroline Constant, enfin, vous avez suivi pour l'humanité le conflit en cours à Radio France. Alors tout de suite, peut-être une première question. Il faut revenir au tout début de cette histoire, c'est-à-dire à la question d'une demande d'économie qui a été demandée par le gouvernement à Radio France et qui a provoqué en cascade justement ce que l'on sait, à savoir la grève, la réorganisation, le plan tel qu'il a été énoncé par la présidente Sybille Veil. Qui veut revenir sur cette question de ce plan d'économie demandé à l'audiovisuel public en général? Caroline Constant.
Alors, Je pense que, pour commencer, ce plan, il intervient alors qu'il y avait déjà eu un premier plan d'économie sur la période 2015-2019, qui avait été déjà une véritable saignée. Donc, on nous parle de 299 suppressions d'emplois à Radio France, mais en vérité, si on rajoute les 400 qu'il y avait eu dans la période précédente, ça commence à chiffrer.
Le chiffre de 400 est contesté par la présidence de Radio France.
Désolé, c'est celui que j'ai par les syndicats, en vérité.
J'imagine
aussi.
Non, pas les mêmes chiffres aussi que la présidence,
qui sont aussi des, c'est peut-être comme les chiffres des manifs. Voilà, en l'occurrence, moi je me fie aussi aux chiffres des syndiqués qui étaient là avant Sybille Veil. Donc ça finit par faire beaucoup sur ces économies. Il y a les 20 millions demandés par le ministère de la Culture, mais il y a 40 millions par-dessus qui sont rajoutés par Sybille Veil, 20 millions sur des charges et 20 millions pour investir sur
un plan
sur
d'humérisation.
Internet. Ce qui est justement les choses sur lesquelles aimeraient discuter les salariés.
Alors, Jamal Hani, il faut remettre cela dans le contexte global. Ces économies sont demandées à Radio France, mais pas simplement à Radio France et à tout l'audiovisuel public. Peut-être Marina Alcaraz, vous avez le chiffre global, c'est combien, en fait.
190 millions d'euros qui ont été annoncés en 2018.
190 millions d'euros.
Pour l'ensemble de l'audiovisuel public d'ici à 2022.
Alors, 190 millions d'euros qui s'intéressent à la fois à la radio,
à la télévision et aux différents groupes publics.
Oui, Jamal Hani.
Oui, alors il y a aussi un petit bout, l'audiovisuel extérieur est aussi concerné, doit aussi serrer la ceinture, France 24, RFI.
France Média Monde.
Voilà, ils doivent aussi se réduire la ceinture et pour la première fois d'ailleurs, ils se mettent à réduire leur couverture dans le monde entier. Il y a des pays dont ils se retirent, des satellites dont ils se retirent parce qu'ils n'ont plus les moyens de suivre pour remplir les économies demandées par le gouvernement. Et à France Télévisions, donc c'est 160 millions d'euros d'économies qui ont été demandées.
Et jusqu'en 2022.
Exactement. Concernant les effectifs, la réduction va se faire via une rupture conventionnelle collective. Il y a eu un accord qui a été annoncé au printemps. Il va y avoir jusqu'à 2000 départs, compensés par au moins 1100 recrutements. Et au total, l'accord qui a été signé donc prévoit une diminution de 900 postes en net.
Au maximum.
Oui. Marina Alcaraz, voilà. Donc ça fait 160 millions pour France Télévisions, 20 millions pour Radio France tel que ça a été demandé, donc, et 10 millions pour les autres participants à l'audiovisuel, en particulier l'audiovisuel extérieur de la France. Laurent Mauduit, vous êtes avec nous au téléphone. Vous êtes un des fondateurs de Mediapart et vous suivez en particulier justement l'audiovisuel pour Mediapart et en particulier sur ces dossiers avec un regard très particulier, je l'ai dit, un regard très politique puisque vous pensez dans les articles que vous avez consacrés à ce qui se passe à Radio France, mais dans d'autres articles également, que tout cela est lié justement à une question politique. Est-ce que vous pouvez développer, puisque nous sommes dans une émission qui traite de la question de la menace potentielle sur la radio publique?
Oui, je ne suis pas spécifiquement la question des médias. Je fais des allers-retours entre la politique économique et sociale et la question des médias. Et moi, ce qui me frappe beaucoup, c'est qu'il y a une sorte de parallélisme des situations que l'on vit entre la crise de Radio France et la crise sociale. D'abord, dans l'origine du mouvement, il y a une sorte de logique comptable dans les deux cas. Voilà, il y a une personne proche de Macron portée à la tête de Radio France. La logique est d'abord une logique comptable.
Vous insistez beaucoup sur le fait que Sybille Veil, notre présidente, est proche d'Emmanuel Macron. C'est comme vous, c'est une façon très récurrente dans vos papiers, Laurent Mauduit, de dire, voilà, c'est la proximité. Vous le traitez même, Emmanuel Macron, de son mentor. Est-ce que vous n'allez pas un peu loin? Ça n'est pas parce qu'on a fait l'ENA ensemble ou qu'on a fait une école journaliste avec d'autres journalistes qu'on est forcément soit mentor, soit très proche de la personne avec qui on a été dans la même classe. Mais je voulais vous poser la question.
Surtout très proche de son mari. Ils sont très amis, liés. Ils sont tous les deux originaires de la finance. Non, moi, ce que je trouve assez frappant, c'est qu'il y ait sans arrêt cette logique comptable. Pour quelle raison? Vous savez, moi, j'ai passé 13 ans au Monde. Il y avait une tradition, à la fois d'indépendance et professionnelle, qui voulait que le directeur du Monde, et c'est le cas toujours à Mediapart, soit un journaliste. Alors, j'entends bien, Radio France, il n'y a pas que l'information, il y a d'autres productions intellectuelles. Mais ce qui est très frappant, c'est que, quelle est la légitimité professionnelle d'un inspecteur des finances ou d'un conseiller d'État?
Nous avons eu plus souvent des présidents de Radio France ou des présidentes de Radio France qui étaient donc soit des énarques, soit des hauts fonctionnaires, que des journalistes. Ça nous est arrivé très rarement d'avoir des journalistes à la tête de cette propre maison.
Ou des spécialistes de production audiovisuelle dans d'autres domaines. Et donc, mais observez également à l'agence France Presse, c'est la même chose. Et du même coup, ce ne sont pas des gens du métier. Et donc, l'approche, le plus souvent, est une approche comptable. Mais pardon, on ne gère pas des lieux de production intellectuelle avec seulement des logiques comptables. Il faut, et souvent une entreprise de ce type-là, qui est complexe comme la vôtre, mais c'est vrai de tous les médias, même des médias écrits,
il faut rappeler aux auditeurs qui le savent sûrement que nous avons 7 antennes, nous avons 2 orchestres, 1 chœur, 1 maîtrise, effectivement. Jamaléni, vous voulez intervenir?
Oui, alors sur les liens entre Sybille Veil et Emmanuel Macron, dans le livre de Marc Andevelde, Le Grand Manipulateur, Marc Andevelde explique que le mari de Sybille Veil, Sébastien Veil, a participé au programme présidentiel d'Emmanuel Macron, dans les groupes de travail, notamment le groupe de travail sur les médias. Et ensuite, les gens qui ont participé à l'élaboration du programme média de Macron disent que le futur président avait 2 idées claires sur l'audiovisuel public. Il trouvait qu'il y avait trop d'argent, qu'il fallait réduire les dépenses, c'était une conviction chez lui. Et 2, il fallait changer le mode de nomination des dirigeants, mais ça, on en parlera peut-être après.
Oui, Caroline Constant.
Je rebondis sur ce que dit Laurent Mauduit, mais moi je vois un deuxième parallèle en fait avec ce qui se passe dans le pays en ce moment avec la réforme des retraites et la façon de le gérer du gouvernement. C'est la façon de gérer ce conflit de la direction de Radio France depuis le début, qui est complètement hallucinante en fait, puisque ce que disent les syndicats, il n'y a pas de d'interstice dans lesquels négocier.
Oui, vous avez rencontré beaucoup les syndicats. Vous n'avez pas eu l'occasion de rencontrer la présidente de Radio France vous-même, Caroline?
Alors, pour le coup, je travaille à l'Humanité. Ça m'intéresse davantage de rencontrer les syndiqués et les salariés de cette maison que la directrice, que la PDGère de Radio France, qui a un micro ouvert un peu partout si elle veut, quoi. Donc voilà.
Marina Caraz, vous travaillez aux Échos vous-même et vous vous intéressez intéressé donc à ces questions de nouvelles lois sur l'audiovisuel. Vous avez rencontré, vous, notre ministre, le ministre de la Culture et de la Communication, Franck Riester, pour lui demander ce qu'était ce projet de loi de l'audiovisuel qui va bientôt arriver devant les députés, devant le Parlement. Ce sera peut-être en février, mais vous semblez dire, vous, dans vos articles, que ce serait plutôt en mars ou plutôt même en avril, une fois que la question des retraites sera passée devant le Parlement. Qu'est-ce que dit le gouvernement sur ses intentions de modification justement du paysage audiovisuel? Ce serait la loi la plus importante, cette loi qui est en préparation depuis 1986, c'est cela?
C'est une loi, en effet une loi très importante, puisque l'audiovisuel avait peu bougé, et bougé par petites touches. Depuis, c'est une loi qui donc a été présentée à la rentrée, qui devrait passer devant le Parlement vraisemblablement au printemps prochain. Il y aura un petit report, même s'il n'est pas encore totalement confirmé. Cette loi a plusieurs volets. Il y a tout un volet qui concerne les télévisions privées, notamment sur la publicité, avec la publicité pour le cinéma, la publicité géolocalisée, la fin des jours interdits de cinéma, etc. Et tout un volet public, donc avec la création d'une holding. Donc une holding, c'est-à-dire une structure chapeautant l'audiovisuel public, à savoir France Télévisions, Radio France, France Médias Monde, qui est la maison mère de RFI ou France 24, et l'INA. Arte et TV5 Monde ne sont pas dedans, d'accord ? Et donc, en fait, cette holding, elle aura pour but de répartir les budgets, elle aura pour but de mutualiser un certain nombre de choses, et elle aura pour but de favoriser les collaborations. Voilà comment le ministre l'a décrit, et elle est prévue pour 2021. L'idée, d'après ce que dit le ministre, c'est vraiment créer un audiovisuel public fort grâce à cette holding, affirmer ses missions dans l'éducation, l'information, la proximité.
Et pourtant, la radio n'y tient pas une très grande place. En tout cas, quand on lit ce projet de loi audiovisuel, on a l'impression que c'est un peu la part la plus congrue de ce projet de loi sur l'audiovisuel.
En effet, dans le projet de loi sur l'audiovisuel, il y a assez peu d'éléments sur la radio. Notamment, il n'y a pas les demandes qu'avaient faites les radios sur tout ce qui est les quotas de chansons francophones. Il n'y a pas non plus, pour l'instant, actuellement, tous des éléments pour mieux les protéger par rapport aux nouveaux entrants comme Spotify, les plateformes de podcast, etc. Ça fait partie des demandes fortes des radios. Toutefois, le ministre Franck Riester a dit qu'il y réfléchirait et que ça pourrait être modifié. Il avait parlé notamment d'amendements à ces sujets.
Jamal Hani.
Alors, juste pour le président de la holding, il aura aussi le pouvoir de proposer les directeurs généraux de chacune des filiales de la holding. Donc, il pourra proposer le directeur général de France Télévisions, le directeur général de Radio France, et le directeur général France Média Monde et celui de l'INA. Et qui seront après, devront être approuvés par le conseil d'administration de chacune des filiales à la majorité des membres du conseil d'administration.
Ce qui peut être vécu effectivement comme une perte d'autonomie d'une radio qui jusqu'à maintenant avait sa propre présidente ou président directeur général selon la période. Et donc, à partir de ce moment-là, d'avoir peut-être moins de capacité à investir, à se développer.
Officiellement, ce que dit le gouvernement, c'est que le rôle de la holding ne portera pas sur les contenus. Les contenus resteront dans l'entière responsabilité des filiales et la holding s'occupera de définir les grandes lignes de la stratégie, des synergies, etc.
Laurent Mauduit, vous avez donc écrit plusieurs articles pour Mediapart sur cette crise que nous vivons ces temps-ci à Radio France et vous insistez sur la question de justement la façon dont ce conflit s'est développé. Vous insistez beaucoup, je l'ai rappelé, sur le fait que la proximité supposée de notre présidente avec le président de la République. Vous inscrivez cela dans votre propre travail sur ce que vous avez fait en tant que journaliste sur la caste, sur l'enquête sur la haute fonction publique qui a pris le pouvoir, que vous avez publié l'année dernière. Dans La Découverte, on a l'impression que vous avez justement trouvé, c'est ce que vous cherchiez d'ailleurs, à appliquer votre grille de lecture, pourrait-on dire, de la haute fonction publique telle qu'elle se développe en France.
Et c'est en partie vrai, mais c'est vrai aussi que il y a d'autres référents qu'on peut utiliser. On est dans un système de monarchie républicaine où il y a toujours eu une proximité très forte et une sorte de verticalisme entre l'Élysée et l'audiovisuel public, avec parfois des organisations juridiques différentes, avec parfois des nominations directement par le chef de l'État et à d'autres moments par le CSA. Mais même quand c'est le CSA, en fait, en fin de compte, ça ne change pas grand-chose, parce que comme le président du CSA est nommé par le président de la République, ça masque juste la procédure. Mais voilà, donc moi ce qui me frappe le plus, c'est ce verticalisme, c'est que il n'y a pas d'indépendance. Moi, comme journaliste, ça a été la quête de ma vie. Ça a été l'ambition que j'ai eue d'être au Monde, parce qu'à l'époque, c'était un journal indépendant. Et je sais, vous-même, vous le savez, que tous les journalistes ont ce rêve d'indépendance. Et donc, quelles sont les garanties? Et donc, vous êtes, vous, c'est l'un des mots qui pèse depuis le début de la Ve République, dans un système vertical, où la plupart des PDG ont l'oreille ou sont sous la tutelle du chef de l'État. C'est ce système. Alors, il y a d'autres mots qui pèsent, à mon sens, sur la radio publique. C'est des systèmes, parfois, de porosité publique-privée, dans un écosystème des médias, de radio, qui va m'inquiétant quand on voit ce que devient un peu le modèle RMC qui contamine tout le monde. Et on pourrait peut-être parler des effets que ça peut avoir en certains endroits sur la radio publique. Mais bon, voilà. Moi, ce qui m'inquiète toujours, la vigilance que j'ai, c'est sur l'indépendance des professionnels. Est-ce que... Alors, c'est vrai que il y a des lieux où la pression est très forte. Je pense qu'elle est plus forte à la télévision publique. Je pense que l'Élysée, parfois, en certaines époques, s'est préoccupé de la nomination jusqu'à certains chefs de service. Parfois, sous Sarkozy, il fallait être sarkozyste pour être chef du service politique de France 2. Je pense que la radio publique a une tradition d'indépendance. Et donc,
Je dis, une émission comme celle-ci le prouve tous les jours.
Absolument, c'est ce que vous faites, c'est courageux, justement. Vous restez un espace de liberté. Alors, il y a des endroits, et si je peux être plus sévère, il y a des endroits où certains PDG de la radio publique ont nommé des obligés, des proches, de regarder par exemple ce qui s'est passé à certains moments à France Info. Un PDG, c'est...
Bah non, là on peut pas accuser des gens sans qu'ils ne soient présents pour pouvoir se défendre. Là, en l'occurrence, je suis désolé, Laurent Bonnebuit, mais ça va être difficile de continuer la conversation sur ce point précis que vous êtes en train de développer. Je voulais vous demander, Caroline Constant, ce que vous pensez du choix en question de ce plan de réorganisation. Puisque notre présidente, Sybille Veil, dit très régulièrement qu'elle aurait pu faire autrement. Et elle aurait pu, par exemple, couper des antennes, elle aurait pu supprimer des formations musicales. Or, le plan tel qu'il est ne supprime aucune antenne et ne supprime aucune formation musicale, en l'occurrence, même si le chœur d'un tiers perdre son effectif d'un tiers. Mais néanmoins, qu'est-ce que vous pensez de cela, Caroline Constant, vous qui avez suivi pour l'humanité ce conflit tel qu'il s'est déroulé à Radio France?
Je trouve que c'est un peu étrange de prendre les choses de cette façon, parce que d'abord, effectivement, le chœur, les plus de 60 licenciements qui sont prévus, ça le fait changer de catégorie, disent les musiciens eux-mêmes.
C'est 30 licenciements.
30 licenciements, excusez-moi.
Des départs
volontaires. Mais bon, après pour c'est le coup, le fait que ces gens partent, le fait changer de catégorie, disent les musiciens, en fait, fait changer le cœur de catégorie. Après, on peut aussi parler du fait de faire partir les gens à FIP, de couper donc FIP de cet ancrage local sur la culture. On peut effectivement se poser la question de quand on enlève en permanence des moyens, on ratiboise, on rabougrit, on n'est pas dans quelque chose d'offensif. Après, il me semble aussi que les syndicats tous disent qu'ils aimeraient parler de ce plan d'économie et notamment des 20 millions d'économies qui sont destinées, selon la présidente.
Je crois savoir qu'ils pourront en parler dès demain à l'intérieur de Radio France. Marie-Lyne Alcaraz.
Oui, chez France Télévisions également, il y a des antennes qui sont supprimées, enfin des fréquences aériennes qui sont supprimées. France 4, France O qui vont être supprimées en 2020, au deuxième semestre 2020, qui vont générer d'ailleurs peu d'économies. Bon, finalement, ça fait pas tant de bruit que ça. Oui, les parlementaires, ça l'émeuve. Oui, la filière de l'animation, ça l'émeut. Mais finalement, à l'intérieur de France Télévisions, même s'il y a une inquiétude, elle n'est pas si forte que ça. Ça n'a pas déclenché de méga grève.
France Info. Et tout est plus clair.
Respirez, vous écoutez FIP, il est 10h01. Respirez, voilà un conseil avisé et une formule magique.
France Musique.
Tu es connecté sur Move.
France Culture. Le temps du débat. Emmanuel Laurentin.
18h40 sur France Culture, vous écoutez le temps du débat consacré à une question, la radio publique est-elle menacée? Nous sommes en compagnie de Marina Alcaraz des Échos, de Laurent Mauduit de Mediapart, de Caroline Constant de l'Humanité et de Jamal Henni de la lettre à la lettre confidentielle.
Oui, je voulais juste préciser ce qu'a dit Marina. Donc à France Télévisions, ils suppriment donc deux antennes, France 4 et France O, ce qui rapporte assez peu d'argent, une vingtaine de millions d'euros sur les 160 millions d'euros d'économies demandées. Mais le modèle à France Télé est un peu différent parce que ils achètent les émissions en externe beaucoup, tandis qu'ici, à Radio France, vous produisez tout en interne.
Donc, c'est très important que de le dire parce que peut-être nos auditeurs ne le savent-ils pas, mais c'est vrai que ça fait partie de la particularité de cette maison. Ce sont des techniciens, ce sont des attachés d'émissions, ce sont des producteurs, ce sont des journalistes, ce sont des réalisateurs et des réalisatrices qui tous participent à la création des programmes en interne. Et peut-être aussi, ça nous permet d'aller dans la deuxième partie de notre discussion, une des craintes qui s'exprime donc à l'occasion de ces mouvements sociaux et peut-être aussi de cette loi sur l'audiovisuel qui va advenir au printemps prochain, c'est ce rapprochement avec d'autres modes de production qui sont les modes de production de la télévision. Vous pouvez nous en dire un mot, Jamal Henni, de ces modes de production de la télévision, de la façon où Marina Alcaraz.
En fait, ce qui est différent peut-être dans la télé, c'est que la télé, c'est prévu par la loi, enfin c'est prévu par la réglementation, c'est-à-dire la télévision est obligée de commander un certain nombre de productions, des productions extérieures.
Pour soutenir la production française.
Et pour soutenir la production indépendante française, donc c'est obligé, c'est non pas le choix.
Et donc effectivement, ça fait partie des craintes, puisque je crois que une bonne partie de la production télévisuelle est assurée par des sociétés de production privées
externe,
et pas en interne aux chaînes publiques de télévision.
Externe, en effet, c'est plutôt les producteurs extérieurs qui sont inquiets, puisque la nouvelle loi justement prévoit un chamboulement des droits entre production interne et production externe. Donc c'est plutôt les producteurs extérieurs qui sont inquiets, bien que les chaînes le soient aussi. Là, on ne sait pas exactement les points sur lesquels on va aboutir. Pour l'instant, c'est encore tôt, il y a des discussions.
Et donc ça veut dire que la loi n'est pas encore tout à fait terminée.
Ça sera par décret, et en effet, il y a encore plusieurs arbitrages à faire sur les décrets production, en effet.
Alors, il y a dans cette crainte de se retrouver confronté à un mastodonte qui serait la télévision publique, il y a cette idée qu'il faudrait renforcer Radio France avant justement la création de cette future holding pour pouvoir rentrer plus fort ou plus forte dans cette holding qui serait radio et télévision, on l'a bien compris, donc à la fois les télévisions publiques et les radios publiques. Laurent Mauduit, qu'est-ce que vous pensez de cela?
Je suis suspicieux parce que c'est vrai que on peut avoir idéalement le rêve des grandes heures de la BBC, voilà. Mais dans cette tradition que je rappelais tout à l'heure de monarchie républicaine, de verticalisme, la peur que l'on puisse avoir, mais c'est la peur d'un immense organisme qui serait donc en prise directe avec des exécutifs, avec des responsables d'unités qui seraient en fait des préfets dans une administration très centralisée. Donc dans la tradition française, dans d'autres
c'est,
pays,
parce que vous mettez en cause la tradition française là-dedans, c'est-à-dire c'est le rapport
culture,
du pouvoir à l'audiovisuel.
La culture faiblement démocratique en France. On est quand même dans une organisation des pouvoirs qui est singulière, où on n'a pas de culture en France de contre-pouvoir. Vous connaissez mieux que moi l'histoire de l'ORTF. Donc dans la tradition, la culture politique française, ce système m'inquiète.
Oui, Caroline Constant.
Alors deux petites choses très 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 rapides. La première, c'est que quand on tourne le bouton ou quand on se met sur France Culture, France Inter, France Info, il y a un son en fait de Radio France. On sait exactement où on est tout de suite.
Culture du son.
Voilà, il y a une culture du son, il y a une excellence du son. On sait exactement où on tombe. Je trouve étrange de réduire les moyens de d'une entreprise comme Radio France pour la rendre plus forte. Ça me fait un peu l'effet de la saignée des médecins de Molière, quoi, en fait. Hein. Voilà.
Oui, Marina Alcaraz, sur ce point-là.
Je voulais simplement signaler qu'il y avait quand même des exemples déjà de coopération entre la radio et la télé. Puisque l'interlocuteur précédent en parlait, il y a quand même des coopérations qui ont été établies, notamment France Info, la chaîne d'info, qui est une coopération. Il y a également des coopérations, par exemple, sur l'INI, la plateforme éducative, ou sur des matinales communes France Bleu, France 3. Mais pour l'instant, c'est vrai que ces coopérations sont relativement limitées. Par exemple, sur les projets de matinales, il y a actuellement 6 matinales. C'est moins vraisemblablement que le plan de marché initial. Et c'est pas si facile que ça, finalement, de faire travailler la radio et la télévision
ensemble. Parce qu'il faut aussi partir du principe, peut-être, Jamalini, qu'il y a des cultures d'entreprises qui se sont écartées les unes des autres. Dans cette même maison, il y avait l'ORTF. On en parlait à l'instant même avec Laurent Mauduit. On a écouté tout à l'heure un documentaire consacré à la crise de mai 68 ici à l'ORTF. C'était juste avant cette émission. Effectivement, c'était dans la même maison, avec des cultures qui étaient relativement communes, mais entre-temps, effectivement, les télévisions sont parties de la maison de la radio et ont peut-être divergé pour se rapprocher d'autres modes de production qui sont très différents de ceux que nous connaissons ici. Je ne sais pas, Jamalini, vous avez quelque chose à dire là-dessus ?
C'est des modèles qui sont assez différents et peut-être, dans d'autres pays comme la Grande-Bretagne, c'est dans une même entité. Ça donne de bons résultats là-bas, mais voilà.
Oui, sur une autre question que je voulais aborder avec vous quatre, c'était la question de la pérennisation du financement de l'audiovisuel public, puisque vous disiez tout à l'heure que Jamalini, il y avait la question de l'argent, où ça coûtait trop cher, etc. On se trouve dans une question de redevance. Il y a donc cet impôt qui n'est pas d'ailleurs un impôt dédié pour l'audiovisuel, qui est lié à la question de la taxe d'habitation, la redevance audiovisuelle. Cette redevance, eh bien, elle a baissé d'un euro cette année. Mais surtout, on ne sait pas très bien comment sera financé l'audiovisuel public dans 2 ou 3 ans, quand cette loi audiovisuelle entrera pleinement en action. Caroline Constant.
Alors déjà, faire baisser d'un euro la redevance cette année, ça s'appelle un peu de la démagogie, parce que un euro dans le budget des ménages, c'est pas ça qui va les aider à vivre davantage. Et par contre, le manque à gagner pour l'audiovisuel public, il est patent. Donc c'est important. Et on n'arrête pas, on entend beaucoup de la part de nos dirigeants dire que la redevance, on va la baisser ou qu'on va la supprimer, tout ça, etc. C'est nécessaire. Elle est nécessaire effectivement pour le moment. On n'a pas la redevance la plus élevée d'Europe. Hein.
Elle est 138 maintenant.
On est au 8e rang en fait.
Et donc 24, voilà. Il faut le préciser, 24 et un peu plus pour Radio France. Tout le reste allant à la télévision publique. Ça n'est pas ce que disait la question de baisser la redevance, que disait Franck Riester, qui était interrogé par BFM TV le 29 novembre dernier.
Les Français la payent en payant leur taxe d'habitation. Donc à partir du moment où on supprime la taxe d'habitation, à partir de 2022-2023 pour tous les Français. À ce moment-là, il faudra voir de quelle manière on fait payer la redevance par les Français. Elle va pas disparaître parce que le président de la République et le Premier ministre ont très clairement dit qu'il fallait maintenir un financement spécifique pour le financement de l'audiovisuel public. Pourquoi ? Parce que ça permet de garantir un financement pérenne et de garantir l'indépendance par rapport au pouvoir politique. Et ça, c'est un point très important.
Le ministre de la Culture, Franck Riester, à BFM TV le 29 novembre dernier, Marina Alcaraz.
On ne sait pas exactement quelles vont être les nouvelles modalités de la redevance, du financement de l'audiovisuel public. Que le ministre s'est engagé à avoir un financement public dédié. On sent bien que c'est une question quand même très délicate. Hein. Il y a souvent des déclarations du gouvernement un peu contradictoires, donc c'est vraiment pas exactement comment ça va se passer. Mais l'idée, c'est d'avoir un financement dédié. Mais l'autre question qui se pose, c'est aussi, dans cette future holding, est-ce que les différentes sociétés vont devoir se battre pour, en fait, finalement, avoir leur budget ?
Pour demander au président ou à la présidence de la holding pour avoir leur budget.
Pour avoir leur budget, voilà. Et une des questions qui se pose, c'est est-ce que finalement, il va falloir se battre ? Est-ce qu'il va falloir, comment ça va se passer,
la répartition de ce budget ? Mais ces sociétés d'audiovisuel public comme Radio France ne se battent-elles pas auprès de leur tutelle ces temps-ci pour pouvoir aussi avoir un budget ?
Oui, mais il va avoir une strate supplémentaire. Il va falloir maintenant convaincre une strate supplémentaire en plus de convaincre l'actionnaire public.
Laurent Mauduit.
Oui, je m'étais amusé dans un article précédent a cité Noam Chomsky, vous vous souvenez de la citation célèbre, « Comment détruire un service public en baissant son financement ? Il ne fonctionnera plus, les gens s'énerveront, ils voudront autre chose, c'est la technique de base pour privatiser un service public. » Une fois que j'ai dit ça, il y a deux remarques. C'est vrai que la redevance n'a jamais été un prélèvement très juste, hein. Il n'est pas progressif, donc voilà, il y a peut-être d'autres systèmes plus justes pour financer. Le gros avantage à un financement spécifique, c'est évidemment de garantir la pérennité du financement et l'indépendance. Et moi, ça me semble très important, je l'ai signalé tout à l'heure, mais vous m'avez coupé, dans un univers médiatique qui devient insupportable. Je veux dire, le système RMC contamine le
Mais qu'est-ce que vous appelez le système RMC? Parce que il faudrait peut-être le définir.
Vous le savez, vous êtes l'inverse de cela. C'est la radio low cost, c'est les bavardages insipides, c'est premier scoop, Dupont de Ligonnès a été retrouvé.
Il n'y a pas que RMC qui s'est trompé sur Dupont de Ligonnès, il faut le dire tout de même.
Non, mais vous voyez bien ce que je veux dire. La radio low cost, où l'important, c'est le flux et non pas la pertinence, et non pas la qualité. Et donc, c'est vrai que l'asphyxie financière de la radio publique est un mal gravissime dans cet univers-là. J'ai donné moins de moyens à la radio publique au moment où il y a un univers médiatique qui est en train d'être bouleversé par des systèmes. En d'autres temps, il y avait des radios privées, il y a 20 ans, 30 ans, elles étaient privées, mais il y avait aussi de la qualité. Et c'est vrai que le flux l'emporte sur les contenus maintenant. Et donc je trouve que la question du financement garanti, pérenne pour l'audiovisuel public est l'une des questions majeures.
Oui, et il y a une autre question que vous avez soulevée tout à l'heure, Jamal Hani, en évoquant justement les changements qui seraient successifs à une nouvelle loi sur l'audiovisuel. C'est la question de la nomination des patrons de l'audiovisuel. Qu'est-ce que vous vouliez dire là-dessus?
Alors, ça, c'était une des convictions d'Emmanuel Macron, c'est qu'il fallait changer de système. Alors, pour dire les choses très simplement, depuis la création de l'audiovisuel public en France, il y a eu deux modes de nomination. La nomination par l'État, c'est ce qui a eu lieu sous De Gaulle, sous Pompidou, sous Giscard et sous Sarkozy, et la nomination par le gendarme de l'audiovisuel, ce qu'on appelle aujourd'hui le CSA, qui a été instauré par Mitterrand, qui a eu lieu sur Chirac et qui a été rétabli par François Hollande. Et aujourd'hui, Emmanuel Macron propose un système un peu hybride, donc où le président donc de la holding sera nommé par le conseil d'administration de la holding, qui panache à la fois des représentants de l'État et des personnalités indépendantes. Pour être précis, il y aura trois représentants de l'État, deux personnes nommées sur proposition de l'État après avis du CSA, une personne nommée par l'Assemblée nationale, une personne nommée par le Sénat, deux personnes désignées par le conseil d'administration et deux représentants de salariés. Donc, l'État revient dans le jeu. Par exemple, les administrateurs...
Vous voulez dire que cette verticalisation qui était décrite par Laurent Mauduit pourrait rentrer en jeu?
C'est moins vertical que sous Sarkozy. Sarkozy avait dit, moi, je vais à nouveau nommer les patrons de l'audiovisuel public. Donc là, c'est quand même... On n'en revient pas à cette verticalité-là, mais on revient à un système un peu hybride. Et les administrateurs représentant l'État vont voter et vont donner un avis. Ils vont peut-être même proposer le futur président. En tout cas, ils donneront un avis positif ou négatif sur le président, alors qu'avant, ça se passait par le CSA. Alors, ça se passait pas très bien par le CSA. Ça, c'est l'argument des macronismes. Je peux développer, si vous voulez, là-dessus.
Oui, Marina Alcaraz, justement, sur ces questions de nomination des patrons par rapport à cette nouvelle loi sur l'audiovisuel. Est-ce que vous pensez, effectivement, que cette nouvelle loi sur l'audiovisuel, telle qu'elle est présentée comme un véritable bouleversement, pourrait-on dire, pour l'audiovisuel français et en particulier l'audiovisuel public. Est-ce que vous pensez que c'est à la hauteur de ce qu'on l'on dit ou est-ce que c'est plus cosmétique qu'autre chose?
C'est difficile de dire si c'est cosmétique ou à la hauteur. On verra dans les faits. En fait, ça va beaucoup, vraiment pour répondre aux questions, ça va être beaucoup dans la réalisation. Un, on va voir exactement quels sont les pouvoirs confiés au président de la nouvelle holding, les pouvoirs précis, et qui va être surtout le président de la nouvelle holding. Enfin, je veux dire, ça dépend un petit peu.
Ça fait partie quand même de la verticalisation dont on parlait tout à l'heure. C'est-à-dire, ça veut dire que la personnalité qui serait à la tête aurait un pouvoir suprême sur tout l'audiovisuel public. Vous le craignez ou vous le pensez?
de fait, c'est lui qui va donner les grandes orientations.
Bien sûr. Si on avance sur ces questions justement de ce qui est une menace ou pensée comme une menace ici même à Radio France, on peut se dire aussi que, comme le disait dans Ouzbek Erika, un journaliste, Vincent Hédin, c'était le week-end dernier, eh bien peut-être il faudrait sortir de cette idée qu'on est menacé, que peut-être la radio est bien plus souple, bien plus capable de réagir. Elle l'a prouvé depuis pas mal de temps, par exemple Caroline Constant, en étant très à la pointe du podcast, très à la pointe de la numérisation, en ayant fait beaucoup de progrès dans ces domaines-là, et même en étant leader, pourrait-on dire, entre guillemets, si on peut parler de ce terme-là, sur ce marché du podcast français, en étant très à la pointe. Donc on est aussi un média souple et très agile, pourrait-on dire, pour utiliser les termes qui sont généralement utilisés par les chefs comptables.
Alors deux choses, oui, effectivement, il y a des choses magnifiques qui se font. Je pense dernièrement à cette magnifique collection documentaire en podcast sur les hommes violents en fait de France Culture. Mm-hmm. Il y a vraiment des bijoux sur Radio France. Après, dans le temps où c'est aussi des antennes en fait Radio France. Et par exemple, dans ces antennes, à l'époque du podcast, on nous multiplie les rediffusions d'émissions quasiment 10 heures après qu'elles aient eu lieu, alors qu'on a le podcast en fait, donc si on veut on peut y aller. On va pas me faire croire, et ça fait quelques années que ça dure, que c'est une richesse supplémentaire. Non, pour le coup, je pense effectivement qu'il y a danger, et qu'il y a danger même sur des métiers de cette grande maison, qui a intérêt à être très très vigilant et solidaire.
Jamaleni.
Et parmi les réussites de la radio publique, il y a aussi ces excellentes audiences dont vous n'avez pas parlé, mais c'était sans doute par modestie.
Oui, ça fait partie effectivement des succès, et qui sont d'ailleurs mobilisés dans les discussions actuelles, donc entre grévistes et direction, puisque effectivement beaucoup de personnes qui sont en grève ou qui protestent contre les plans de réorganisation disent mais ça tombe mal, parce que ça tombe au moment où nos antennes sont les plus écoutées, où ont le plus de succès. Laurent Mauduit.
Oui, excusez-moi, je ne vous ai pas entendu pendant un instant.
Ouais, ça peut arriver quand on est au téléphone, effectivement. Mais je disais simplement, est-ce que vous pensez que ce média qu'est la radio, a raison de craindre, ou au contraire pourrait se dire, tout compte fait, on a montré notre réactivité, notre souplesse, notre capacité à innover, on a inventé et développé le son binaural dans cette maison, etc., qui sont des nouvelles techniques d'écoute, par exemple, tout cela.
Le sentiment que j'ai, c'est qu'il y a eu, dans certains secteurs de l'audiovisuel public, une normalisation qui fait qu'il n'y a pas de différence entre public et privé. Pour moi, quand je regarde la télévision, regarder malheureusement le journal du soir de France 2, je ne vois pas une différence très sensible avec le journal de TF1. Je dis ça, mais en même temps, il y a des exceptions, parce qu'il y a des productions journalistiques sur France 2 d'enquête qui me semble remarquable. Et le sentiment que j'ai, c'est que la normalisation dans la radio publique n'a pas eu le degré d'avancement qu'elle a eu.
Et on en est très heureux.
Et vous en êtes-vous à France Culture l'illustration.
Merci beaucoup. Merci Laurent Mauduit. Merci à vous quatre d'ailleurs. Merci à vous Jamaleni d'être venu. Donc je rappelle que vous êtes suivez l'audiovisuel pour la très informée lettre confidentielle qui est la lettre A. Caroline Constant, vous avez suivi et vous continuez à suivre le conflit en cours à Radio France pour votre journal L'Humanité. Et Marina Alcaraz, vous suivez particulièrement pour Les Échos le projet de loi sur l'audiovisuel. On l'a bien compris. Vous le suivez de très près, justement, pour savoir comment il aboutira au printemps prochain. Merci à tous les quatre. C'était, comme tous les soirs, le temps du débat. Chloé Cambrelin, Fanny Richer, Rémi Bas, Hugo Boursier, Louise André et Cyril Marchand. À la technique aujourd'hui, Théo Gomard. À la réalisation, Alexandre Manzanares. Si vous voulez en savoir encore plus sur ce qui se passe à Radio France, sur ses projets de réorganisation, vous pouvez aussi vous rendre sur le site de la médiatrice de Radio France, qui vous répond très régulièrement sur ces questions-là. Vous pouvez également lire la page du Temps du Débat. Nous avons beaucoup de liens qui ont été ajoutés sur cette page aujourd'hui pour que tous nos auditeurs et toutes nos auditrices soient au courant de ce qui se passe à Radio France.